Vous écoutez, on lit pour vous.
Un pari audacieux, relancer le cuir du Québec, un dossier de Jean-Thomas Léveillé, paru le 3 janvier 2026 dans la presse. Une solution québécoise originale. Macheteux Yatch. Jean-François Allé dépose des peaux de mouton dans une coudreuse, une grande cuve remplie d'eau munie de pales rotatives. On fait un rinçage. Après ça, on va les essorer. Avant de commencer le processus de tannage, explique le biologiste, qui est responsable du laboratoire du Centre collégial de transfert technologique, CCTT, Écofaune boréale au Lac-Saint-Jean. Pour les autres peaux animales, on utilise un foulon qui ressemble à une grosse laveuse à tambour, mais il ne faut surtout pas y mettre les peaux de mouton. Si tu mets des peaux de mouton là-dedans, ça va faire des boules de feutre, comme un chandail de laine qui rétrécirait au lavage, prévient-il. Dans ces locaux où flotte une légère odeur de chair animale, Écofaune boréale s'affaire depuis 2019 à développer ou redévelopper des techniques de tannage pour la fourrure sauvage et les peaux provenant des abattoirs. On fait de la recherche appliquée pour les entreprises, les communautés, pour trouver des solutions techniques à des problèmes industriels ou commerciaux avec une obligation d'enseignement collégial, résume son directeur, Louis Gagné. Une industrie pratiquement disparue. Le cuir était, à la fin du 19e siècle, l'un des produits les plus importants de l'économie canadienne, et il y avait des tanneries partout au Québec à cette époque, raconte l'agronome André-Anne Hudon-Thibault, chercheuse à Écofaune boréale, dans un article publié en décembre dans la publication Organisation et territoire. Mais la concurrence de pays où les exigences environnementales et sociales sont moins élevées, l'invention de nouveaux textiles et les campagnes anti-fourrures ont réduit presque à néant l'industrie québécoise qui ne compte plus qu'une seule tannerie commerciale, dans le Kamouraska. Il y avait de l'expertise, mais ça s'est perdu, se désole Louis Gagné. On a toute la matière première, mais on n'est plus capable de l'exploiter, plus capable de la valoriser. Par conséquent, les peaux des animaux élevés au Québec pour l'alimentation peinent à trouver preneur, et la majorité sont incinérées ou envoyées dans des centres d'enfouissement. C'est 130 000 peaux par année qu'on jette. Seulement pour l'agneau, s'indigne Louis Gagné. Celles qui sont récupérées sont principalement expédiées en Asie ou en Europe pour être tannées avant d'être renvoyées ici. On a une balance commerciale très négative de plusieurs centaines de millions dans le domaine du cuir et de la fourrure, indique Louis Gagné. On importe beaucoup plus qu'on exporte. D'où l'intérêt de revitaliser la filière, dit-il, y voyant une question d'enrichissement. Vision éco-responsable. Écofaune boréale développe un tannage éco-responsable en recourant presque exclusivement au tannage végétal plutôt qu'au tannage minéral au chrome ou au tannage synthétique. L'établissement, installé dans la communauté Inoue de Macheteux Yatch et rattaché au cégep de Saint-Félicien, développe un approvisionnement québécois de tanins végétaux à partir de résidus d'entreprises du secteur forestier, par exemple, parce que ces produits viennent actuellement d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Ce principe-là, on va le faire à chaque étape, dit Louis Gagné. On essaie vraiment de travailler dans le sens d'une solution québécoise, originale. Les rejets sont aussi limités à leur strict minimum. Les fourrures moins belles sont épilées pour faire du cuir et les poils sont conservés pour faire du feutre. Un secteur délaissé par l'État. D'un petit producteur de veau de Charlevoix à un couple d'éleveurs de moutons de Lotbinière, en passant par les chasseurs de phoques des îles de la Madeleine, la demande pour tanner des peaux au Québec est bien présente, mais ce secteur économique n'est pas soutenu par l'État, regrette Louis Gagné. C'est la première fois qu'un centre de recherche post-secondaire ou d'enseignement supérieur s'occupe de cette question-là au Canada, dit-il, soulignant que le tannage est toujours enseigné en France, par exemple. Si tu n'enseignes pas quelque chose, si tu ne transmets pas la connaissance de quelque chose, c'est sûr que ça va mourir, dit-il. Louis Gagné déplore également que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, qui finançait conjointement les CCTT avec le ministère de l'Éducation, ait cessé de le faire, ce qui représente un manque à gagner de 5 millions de dollars, dont 86 000 dollars pour Écofaune boréale. On a flambé 270 millions dans Northvolt, s'offusque-t-il. Mais on a enlevé 5 millions de financement pour le réseau des CCTT. L'ABC du tannage. Les peaux des animaux doivent être écharnées pour en retirer le gras, puis trempées dans une solution acide pour ouvrir les pores afin de faciliter la pénétration des tanins. Anciennement, les peaux étaient tannées par trempage dans une solution d'écorce de végétaux, un procédé qui était très long. Mais les tanins sont aujourd'hui extraits à l'avance et concentrés, ce qui se traduit par un énorme gain de temps. Les peaux doivent ensuite être neutralisées pour refermer les pores, puis huilées pour leur donner de l'élasticité et les conserver. Elles sont finalement séchées et étirées pour obtenir la souplesse désirée et poncées pour leur donner un fini plus lisse. En savoir plus, source A.A. Hudon-Thibault et collègues, 2025, Valorisation des peaux d'abattoir au Québec, état des lieux et perspectives, organisation et territoire. 12. Nombre de tanneries en activité au Québec, soit 11 artisanales et une commerciale. 420, nombre de tanneries en activité au Québec à la fin du 19e siècle. Vous écoutez Un pari audacieux, relancer le cuir du Québec, un dossier de Jean-Thomas Léveillé, paru le 3 janvier 2026 dans la presse. On en jette 59%. La Malbaie. Vous vendez des peaux, s'exclame le client, dont le regard s'est arrêté sur les pièces de cuir brun placées à côté du congélateur rempli de côtelettes, d'onglets et d'autres pièces de veau. Le cuir de veau, c'est le meilleur, parce qu'il est plus mince, répond avec enthousiasme l'éleveur Jean-Robert Audet, qui vend ses produits directement à la ferme. Sa petite boucherie, installée en face de l'étable rouge, où il engraisse une douzaine de veaux chaque année, est un véritable laboratoire d'économie circulaire. En plus de la viande de ses bêtes, on y trouve des bougies et savons faits avec leur suif, de la poudre d'os pour potager, des suppléments de collagène, des gâteries à mastiquer pour chiens et du cuir. Propriétaire d'un abattoir pendant 20 ans, Jean-Robert Audet a distribué du veau de Charlevoix partout au Québec jusqu'en 2014. Quelques années plus tard, il s'est lancé dans l'élevage à plus petite échelle et à chercher à mieux valoriser les carcasses de ces bêtes, de race blanc-bleu-belge. C'est au fil de ses recherches qu'il a découvert que seulement 41% d'un bovin est destiné à l'alimentation humaine selon l'Association interprofessionnelle française du bétail et des viandes, le reste étant généralement envoyé à l'équarissage pour faire des farines animales, des engrais ou des graisses. Là, je suis tombée à terre, se souvient l'intarissable Charles Voisien, fier de raconter sa démarche aux clients qui passent la porte de son commerce. Les animaux qui nous donnent leur vie, on en jette 59%. Est-ce que c'est honorer l'animal, ça? S'indigne Jean-Robert Audet. C'est en cherchant à récupérer davantage de parties de ces animaux que Jean-Robert Audet, agronome de formation, a pensé à en tanner la peau, qui représente quelque 6% d'un bovin. Mais les tanneries artisanales qu'il a contactées, qui font surtout de la fourrure, n'étaient pas intéressées. Et la tannerie commerciale des Ruisseaux, dans le Kamouraska, fait du tannage minéral, alors qu'il souhaite un tannage végétal. Il a donc abouti au Centre collégial de transfert technologique, CCTT, Écofaune boréale, au Lac-Saint-Jean. Des crèmes de beaux produits. C'est plus souple, s'est exclamé Jean-Robert Audet, euphorique, quand il s'est rendu chez Écofaune boréale pour récupérer un deuxième lot de peau de ses veaux. Il y a de quoi faire des crèmes de beaux produits avec ça. On les a amincis avant de les tanner, lui a expliqué le biologiste Jean-François Allais. Écofaune boréale a accepté de participer au projet de Jean-Robert Audet parce que son objectif de valoriser l'animal le plus possible est hautement symbolique, dit le directeur de l'établissement Louis Gagné. L'économie circulaire, c'est fondamental. Les ressources se font rares. Eh bien, arrêtons de les jeter aux poubelles. Un abattoir nouveau genre. Jean-Robert Audet rêve d'un nouveau modèle d'abattoir tourné vers l'économie circulaire qu'il a baptisé CVA pour Centre de valorisation de l'animal. Une tannerie, une savonnerie et une boucherie compléteraient les activités d'abattage, soit sur le même site, soit pas loin dans la région, détaille-t-il, ajoutant qu'il prévoit bientôt tirer davantage de revenus dans la vente des coproduits de ses veaux que de la vente de leur viande. C'est ça qu'il faut faire. Et pour l'écologie, et pour l'autosuffisance, et pour la rentabilité, énumère-t-il, soulignant que les petits abattoirs, seuls, ne sont pas rentables au Québec. Cette approche remettrait l'animal au centre de nos vies, comme dans le temps de nos grands-parents, dit-il. D'où le slogan, écrit dans la vitre de sa boucherie en grosses lettres rouges, « Le futur est vers l'arrière ». Mais à 70 ans, sans relève, Jean-Robert Audet craint de ne pas pouvoir accomplir son rêve lui-même. « Je suis encore jeune dans ma tête. Mais il n'y a pas un bailleur de fonds qui va me suivre, dit-il, sans pour autant s'attrister. Je verrai plus une coopérative de travailleurs ou un groupe de producteurs mettre sur pied un tel CVA, imagine-t-il. Il pourrait y en avoir dans d'autres régions. Les abattoirs coincés avec les pots. Jean-Robert voulait ravoir ses peaux. Je lui ai dit, avec plaisir, « Je n'aurai plus besoin de payer pour m'en débarrasser », raconte Steve Clich, propriétaire de l'abattoir Clich. Quand il a ouvert son entreprise, il y a une quinzaine d'années, Un récupérateur lui achetait les peaux animales entre 25 et 40 $ pour les revendre, ce qui représentait un revenu hebdomadaire de 1 500 $. Mais il doit aujourd'hui payer l'entreprise d'équarissage Sanimax pour les reprendre, ce qui lui coûte environ 500 $ par semaine. Les abattoirs, qui ne sont pas servis par Sanimax, eux, sont autorisés à envoyer les peaux à l'enfouissement, tel que le prévoit le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC, ce qui leur coûte beaucoup moins cher, déplore Steve Clich. Seuls certains gros abattoirs, équipés pour conditionner les peaux, les conservent afin de les revendre pour le tannage, principalement en Chine et en Italie. L'espoir de la relève. La première tannerie commerciale autochtone au Canada a vu le jour au début de l'année au Lac-Saint-Jean. Et c'est le Centre collégial de transfert technologique Écofaune boréale qui forme ses futurs employés. 9 Innus de Mashteuiatch ont commencé en octobre 2025 une formation de 18 semaines pour apprendre les rudiments du tannage commercial. Certains d'entre eux iront ensuite travailler à la tannerie Pequakami. Cet organisme à but non lucratif, fondé en février 2025 dans la communauté Innu du Lac-Saint-Jean, est la toute première tannerie commerciale autochtone au pays. C'est la première fois qu'on accueille un groupe comme ça pour une formation aussi longue, s'enthousiasme Louis Gagné, directeur d'Écofaune boréale. Il y a un besoin. Il y a de moins en moins de tanneries, explique Nina Bossom, coordonnatrice de la tannerie Pequakami, qui suit elle-même la formation. L'entreprise vise le marché des animaux à fourrure, mais pourrait aussi ajouter d'autres volets pour servir de grandes entreprises, explique son cousin Stacy Bossom, membre du conseil d'administration de la tannerie. Le but est de rentabiliser les activités et de faire travailler les gens de chez nous, dit-il. La formation intègre un volet sur le tannage traditionnel autochtone pour transmettre ses connaissances qui s'effritent. C'est Stacy Bossom qui l'enseigne. Il l'a appris d'un aîné de la communauté. On montre à fabriquer et utiliser les outils traditionnels en os, qui sont parfois plus efficaces que des outils modernes, dit-il, expliquant qu'une lame de couteau a tendance à trancher ou percer la peau, ce qu'un outil en os ne fait pas. Il y a des choses qui sont semblables, mais qu'on fait différemment. Puis, il y a des processus commerciaux avec les machines qui accélèrent vraiment les procédés, explique Nina Bossom. Elle cite les charneuses qui servent à enlever le gras. On aurait pu passer la peau directement dans les charneuses là-bas, mais nous autres, on a pris la journée au complet pour l'écharner à bras, pour apprendre la technique à l'ancienne, illustre-t-elle. La formation permet de comprendre l'utilité des différents procédés, une question que la transmission traditionnelle des connaissances laisse parfois en suspens. La réponse était parfois « On le fait de même, parce qu'on l'a toujours fait de même. Pose pas de questions, dit en rigolant Stacy Bossom. C'est vraiment intéressant et enrichissant, le mélange de connaissances, ajoute Nina Bossom. Ça amène des beaux échanges, c'est complémentaire. La tannerie Pequakami aura recours au tannage végétal développé par Écofaune boréale dans un souci d'éco-responsabilité. Elle fera aussi la gestion de ses effluents, notamment pour neutraliser les produits basiques ou acides. Le projet s'appuie sur 3 études et un plan d'affaires réalisé par la communauté dans les 4 dernières années. L'initiative a suscité l'intérêt d'autres communautés autochtones, notamment Cree, qui souhaitent suivre une formation, indique Nina Bossom. C'était un pari audacieux, relancer le cuir du Québec, un dossier de Jean-Thomas Léveillé, paru le 3 janvier 2026 dans la presse.
La diminution de la collecte au cœur d'une révolution. Un texte de Jérôme Savary, publié le 11 décembre 2025 dans La Voix de l'Est. Dans nos bacs à ordures, on retrouve encore 46 % de matière organique ainsi que 22 % de matière recyclable, selon la MRC de la Haute-Yamaska, citant Recycle Québec. Autour de nous, certains se demandent comment ils réussiront à composer avec la diminution de la fréquence du ramassage des ordures à compter du 1er janvier 2026. Au lieu d'une fois toutes les 2 semaines, celui-ci passera à une fois par mois. Plus on est, plus on consomme et plus on remplit de bacs. Éric Gouin, proche aidant qui héberge sa belle-mère malade, nous a également fait part de sa réalité par courriel. Cette situation générant plus de déchets non compostables ou recyclables. On est conscient qu'il y aura une période de transition, reconnaît en entrevue René Beauregard, préfet de la MRC de la Haute-Yamaska. On est quand même très confiant que la majorité du monde va ajuster le tri en conséquence. C'est dans le but d'améliorer notre environnement, souligne-t-il. Il y a également des raisons financières. Nous y reviendrons plus loin. Un constat et de nouvelles règles de tri. Selon Karine Denis, directrice du service de gestion des matières résiduelles à la MRC, on peut faire mieux dans notre façon de trier. Selon le dernier bilan de Recycle Québec, on retrouve encore 46 % de matières organiques dans les bacs à ordures, puis 22 % de contenants, emballages ou imprimés recyclables. Karine Denis, MRC de la Haute-Yamaska. Les nouvelles règles de tri, si elles se rendent jusqu'aux oreilles des citoyens, leur faciliteront la tâche. Depuis le 1er janvier 2025, trier ces déchets n'a effectivement jamais semblé si simple. En effet, plus besoin de penser aux numéros des différents types de plastique ou aux symboles inscrits sur les emballages pour savoir ce qui prend ou pas le chemin du bac de récupération. Il suffit de se demander simplement « est-ce un contenant, un emballage ou un imprimé ?» Chaque déchet répondant à l'une de ces catégories doit être recyclé. Les barquettes alimentaires en polystyrène, styrofoam, petits pots de yogourt, sacs de chips et emballages de barres tendres, tout ça va dans le bac bleu. Source, Karine Denis, MRC de la Haute-Yamaska. Une campagne de sensibilisation de la MRC martèlera ce message, qu'on retrouve également sur son site Internet. Au niveau technique, l'équipe de gestion des matières résiduelles de la MRC est là pour accompagner les citoyens, souligne Mme Denis. Quelques trucs et conseils peuvent atténuer beaucoup d'appréhension. Responsabilité élargie des producteurs. La modernisation de la collecte sélective, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, s'appuie sur le principe de responsabilité élargie des producteurs. C'est une sorte de révolution à laquelle on assiste. Karine Denis, directrice du service de gestion des matières résiduelles à la MRC. Les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec sont désormais responsables de leur gestion en fin de vie, selon Recycle Québec. Des exceptions et des bacs supplémentaires. En principe, la règle en matière de récupération des ordures est d'un bac roulant par ménage. Certaines exceptions s'appliquent. Un ou deux bacs roulants supplémentaires peuvent être accordés à condition de faire partie d'une des catégories suivantes et d'en justifier la demande à la MRC. Appelez au 450-378-9976, poste 2231. Les familles de 6 occupants et plus, les entreprises agricoles comprenant la résidence, jusqu'à 3 bacs de plus. Les garderies en milieu familial, les maisons d'accueil pour personnes âgées, les ménages avec des enfants portant des couches, les ménages où l'on retrouve une personne dont la condition médicale génère plus de déchets. Les ménages admissibles devront toutefois payer le coût du bac et les frais associés à la levée additionnelle. Le coût additionnel pour la levée en 2025 est de $60 par année à Granby, nous a répondu la MRC jeudi matin. Le coût du bac est variable en fonction du marché, a priori entre $150 et $200 selon nos recherches. Note de la rédaction. Les ménages recevront ensuite un autocollant qu'ils pourront apposer sur leur bac supplémentaire. Objectif : contrôler les coûts. Cette révision de la collecte a également un motif financier. Ces dernières années, les coûts à l'enfouissement n'ont fait qu'augmenter, indique le préfet de la MRC. Le passage à une fois par mois ne signifie pas un coût moindre de collecte pour la MRC en 2026, prévient-il. C'est plutôt une préoccupation pour maintenir un coût raisonnable. D'autres municipalités et une MRC ont déjà adopté de telles pratiques. M. Beauregard donnant les exemples de Magog, Sutton, Dunham, Eastman et la MRC des Chenaux à l'est de Trois-Rivières, en Mauricie. Quid des multilogements et des conteneurs? La révision de la collecte des ordures en Haute-Yamaska s'applique uniquement aux bacs roulants et non aux conteneurs. La fréquence du ramassage des ordures dans le cas des multilogements de 6 logements et plus, est maintenu aux 2 semaines, car ceux-ci disposent de conteneurs. Par ailleurs, le changement de rythme de collecte pour les bacs roulants entre en vigueur après que la fréquence de collecte des bacs bruns de compost soit passée l'hiver de 4 semaines à 2 semaines, le 1er janvier 2024, précise la MRC. C'était « La diminution de la collecte au cœur d'une révolution ». Un texte de Jérôme Savary publié le 11 décembre 2025 dans La Voix de l'Est.